France Culture.
On fait le point sur l'info, c'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Moins d'un mois après avoir définitivement été condamné dans l'affaire dite des écoutes, Nicolas Sarkozy est déjà de retour devant la justice. L'ancien président devra répondre cette fois-ci d'accusations de financement illégal de campagne et association de malfaiteurs. Il encourt 10 années de prison. L'audience doit débuter d'ici quelques minutes au tribunal de Paris. Nous serons sur place. On en parlera aussi avec notre invité aujourd'hui, le journaliste Fabrice Arfi. À suivre également la visite à Mayotte de la chef de l'extrême droite Marine Le Pen. On parlera poste dans l'éducation nationale et puis l'actualité à l'étranger. On se rendra à Moscou après que les forces ukrainiennes qui reculent depuis des mois sur le front ouest ont lancé hier une nouvelle offensive dans la région frontalière de Koursk. Nicolas Sarkozy a-t-il accepté l'argent d'un richissime dictateur en quête de respectabilité pour financer la campagne qu'il a portée au sommet de l'État en 2007, ou dit autrement, celui qui rêvait encore seulement à l'époque de franchir les portes de l'Élysée a-t-il pour cela noué un pacte de corruption avec Muammar Kadhafi? C'est donc pour démêler les chevaux de cette affaire absolument tentaculaire, mêlant aujourd'hui l'éternelle figure tutélaire de la droite au fantôme du guide libyen, sans oublier des politiques peu scrupuleux et des intermédiaires véreux, que l'ancien dirigeant est de retour au tribunal aujourd'hui aux côtés de 11 autres prévenus, dont 3 anciens ministres, Claude Guéant, Brice Hortefeux et Éric Woerth. Alors inutile de préciser que depuis le début de l'instruction, Nicolas Sarkozy et ses proches clament leur innocence et dénoncent ce qu'ils considèrent comme un complot politique. Florence Thuan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes au tribunal de Paris où l'audience n'a pas encore débuté. Alors plus de 15 ans après les faits, des zones d'ombre subsistent encore parmi les innombrables pièces de ce dossier. Puis les enjeux de ce procès, Florence, vont bien au-delà en réalité de l'affaire elle-même.
Oui, pour la première fois au cours des différentes affaires qui l'ont déjà conduit devant les juges, Nicolas Sarkozy va comparaître avec un casier judiciaire. 3 semaines après sa condamnation définitive dans l'affaire des écoutes, 1 an de prison ferme, je vous le rappelle, sous bracelet électronique, un bracelet qu'il ne porte pas encore. Les modalités doivent être fixées prochainement par le juge d'application des peines. Et c'est une incrimination à plusieurs volets dont il va devoir répondre durant ces 4 mois d'audience. Corruption, recel de détournement de fonds publics, financement illégal de campagne électorale et association de malfaiteurs, une infraction que l'on est davantage habitué à voir dans les dossiers de criminalité organisée et les affaires de terrorisme. Autant d'infractions qu'il a toujours rejetées comme une fable. Sa défense dénonce l'absence de preuves irréfutables. Elle plaidera la relaxe. Les juges d'instruction ont estimé, eux, dans la droite ligne de l'analyse du parquet national financier, et c'est un enjeu pour le PNF, qu'il y avait suffisamment d'indices graves et concordants pour constituer ce pacte corruptif au centre de l'accusation. Il impliquerait notamment aussi les 2 anciens ministres, Claude Guéant et Brice Hortefeux. Eux vont devoir s'expliquer sur le contenu de leur visite en Libye au cours des années 2005 et 2006. Un pacte où l'on retrouve également 2 intermédiaires des contrats parallèles, le discret Alexandre Djouri et le sulfureux Ziad Takieddine, et ses déclarations contradictoires, qui s'est présenté comme le porteur de valises et qui a pris la fuite au Liban le jour du jugement de l'affaire Karachi, pour laquelle il a été condamné en juin 2020.
Merci Florence Sturm. Alors rappelons que l'enquête qui a donc convaincu les juges d'instruction de l'existence de ce soutien financier a duré près de 10 années. Et le véritable détonateur en réalité de cette affaire, eh bien, c'est un article publié par le site d'investigation Mediapart le 28 avril 2012, juste avant d'ailleurs que Nicolas Sarkozy ne remonte sur scène pour un meeting lors de sa seconde campagne présidentielle cette fois-ci. Et dans cet article intitulé « Sarkozy-Kadhafi, la preuve du financement », on trouve notamment une note rédigée en arabe datant de 2006 et dans laquelle l'ex-chef des services de renseignement extérieur de la Libye fait état d'un accord de principe pour un montant d'une valeur de 50 millions d'euros. Et c'est donc à nouveau sur cette affaire d'État retentissante, l'affaire des affaires, que Mediapart, à l'origine des révélations, sort après-demain un film, cette fois-ci intitulé « Personne n'y comprend rien ». Et pour en parler avec nous, nous recevons le co-auteur de ce documentaire et co-responsable des enquêtes de Mediapart, Fabrice Arfi. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Ce n'est pas, je précise, alors évidemment que vous êtes au tribunal et que cet entretien a toutefois été réalisé un peu avant le direct du journal. Ce n'est pas la première fois, Fabrice Arfi, que vous revenez donc sur cette affaire. Vous avez écrit un livre en 2017, il y a eu une série de podcasts en 2023. Pourquoi y consacrer un nouveau documentaire destiné aux salles de cinéma?
Oui, c'est vrai qu'il y a seulement des chaussettes et des mugs qu'on n'a pas fait avec ce dossier. Peut-être on y viendra. On a décidé de faire un film pour aller sur le terrain de Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire qu'on a fait le constat que, en 14 ans, depuis les premières révélations de Mediapart, qui ne datent pas de 2012, mais de juillet 2011, hein, notre premier article c'est juillet 2011, le grand soupçon libyen. En fait, cette histoire a majoritairement vécu dans les médias, évidemment pas dans tous les médias, mais par la force des démentis de Nicolas Sarkozy, plus que par l'analyse des faits eux-mêmes. Et donc, Nicolas Sarkozy, à chaque fois qu'il a été mis en examen, il l'a été 4 fois dans cette procédure, comme ça a été bien rappelé tout à l'heure, il s'est invité pendant 30 minutes à un 20h d'une grande chaîne, pendant 45 minutes sur la première chaîne d'information en continu, qui n'ont pas consacré autant de temps à simplement l'explication des faits. Alors bien sûr, le président, l'ancien président a le droit de se défendre, il n'y a aucun problème avec ça, mais c'est quand même étrange de connaître cette histoire essentiellement par l'indignation du mis en cause, dont je rappelle que c'est aujourd'hui un délinquant, hein. C'est quelqu'un qui a été définitivement condamné dans une autre affaire de corruption, il est présumé innocent dans l'affaire libyenne. Eh bien, il a fait du spectacle médiatique avec cette histoire. Nous sommes allés sur le terrain du spectacle, puisqu'un cinéma, le cinéma, c'est aussi du spectacle, pour utiliser un fil narratif et déjouer le titre pour que tout le monde y comprenne tout dans ce dossier.
Et c'est vrai, justement, hein, personne n'y comprend rien. C'est une formule, en réalité, prononcée par Nicolas Sarkozy lui-même à propos de cette affaire. Formule qui donne donc à la fois le nom à votre film, mais aussi le ton, c'est-à-dire un déroulé le plus limpide possible des faits avec une pointe de grotesque.
Oui, mais alors le grotesque n'est pas notre fait. En fait, ça a été la grande force du réalisateur Yannick Kergoat, c'est de mettre en scène, de manière parfaitement sincère et honnête, les différentes interventions médiatiques de Nicolas Sarkozy, qui, une fois que la fumée de la communication est retombée, quand elle est confrontée aux éléments matériels, et il y en a quantité dans ce dossier, montre les déclarations grotesques, les déclarations parfois ridicules, voire contradictoires, dans un dossier qui est évidemment incandescent. C'est jamais arrivé dans l'histoire de la République et de la justice qu'un ancien président et 3 anciens ministres se retrouvent sur le banc des prévenus pour avoir été stipendiés et d'avoir noué un pacte de corruption avec une dictature effroyable, celle de Muammar Kadhafi, à laquelle on va d'ailleurs faire la guerre 4 ans après l'élection présidentielle.
Fabrice Arfi, dans sa défense, Nicolas Sarkozy met en doute la réalité des versements d'argent d'origine libyenne. Plus exactement, il estime que si de tels versements sont avérés, aucun élément ne permet de les lier au financement de sa campagne de 2007. Que pensez-vous de cette défense qui consiste d'une certaine manière à affirmer que le dossier est vide ?
Oui, c'est en effet la position, en tout cas médiatique, des avocats de Nicolas Sarkozy à l'aube de l'ouverture du procès. Dans le dossier judiciaire, c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé en réalité. Nicolas Sarkozy a évolué dans sa stratégie de défense. Il a d'abord dit que l'affaire libyenne était une fabrication totale des kadhafistes revanchards parce que on allait les bombarder. Et donc c'est une forgerie dont la justice française, d'ailleurs, serait toujours aujourd'hui sous la coupe des kadhafistes et déciderait de la tenue de ce procès. Mais confronté à la quantité d'éléments matériels, et j'insiste bien là-dessus, d'éléments matériels, notamment de virements bancaires, de contreparties qui ont été découvertes par les enquêteurs, Nicolas Sarkozy a un peu changé de version, voire beaucoup changé de version. Ce qu'il dit désormais, c'est qu'en fait les Libyens ont versé de l'argent en pensant financer sa campagne, mais qu'ils ont été escroqués par ce qu'on appelle pudiquement un intermédiaire, qui est en réalité un agent de corruption présumé, vous en avez parlé dans le sujet avant, il s'appelle Ziad Takieddine, qui aurait gardé tout l'argent pour lui. En fait, cette thèse n'a pas résisté à l'analyse de l'instruction d'après l'accusation, puisqu'une partie des flux a été retrouvée grâce à des virements bancaires, notamment dans des paradis fiscaux, je pense aux Bahamas, dans des poches de proches de Nicolas Sarkozy. Je pense notamment à un virement de 440 000 euros qui est arrivé sur le compte aux Bahamas d'un homme qui s'appelle Thierry Gobert, qui est un habitué des prétoires et qui, juste avant de recevoir l'argent, avait noté sur son agenda électronique la mention NS campagne. Alors il a dit que NS, c'était pas Nicolas Sarkozy et que la campagne n'avait rien à voir avec la campagne présidentielle. Le sujet central de cette affaire, c'est le pacte de corruption avant l'élection présidentielle. En fait, si on part de l'élection présidentielle, on ne comprend pas ce dossier. Le pacte de corruption, c'est est-ce que tu es prêt à me soutenir pour ma campagne électorale ? Je serai prêt à te délivrer un certain nombre de faveurs diplomatiques, énergétiques, sécuritaires, juridiques, jusqu'à lever le mandat d'arrêt d'un terroriste libyen condamné dans une affaire terrible, hein, l'affaire du DC-10 UTA qui a tué 170 personnes, dont 54 Françaises et Français. Ça, c'est le pacte de corruption. Pour la première fois dans l'histoire de France, une affaire de terrorisme va se retrouver au cœur d'une affaire de corruption internationale. C'est ce qui lui donne notamment son caractère inédit.
C'est bien compris. Merci Fabrice Arfi, journaliste donc à Mediapart, co-auteur de ce documentaire, donc Personne n'y comprend rien, qui sortira après-demain dans les salles de cinéma. Merci également à Geoffrey Marianne pour les moyens techniques, ainsi qu'à Louise Guérin pour la préparation.
La cour d'assises des mineurs doit juger à partir d'aujourd'hui l'homme qui a attaqué deux personnes au hachoir, c'était en septembre 2020, devant les anciens locaux de Charlie Hebdo.
L'assaillant, aujourd'hui âgé de 29 ans, comparaît pour tentative d'assassinat terroriste. Cinq de ses proches, soupçonnés de l'avoir motivé et soutenu, devront répondre d'accusations d'association de malfaiteurs, terroristes criminels, un procès qui intervient à la veille de la commémoration de l'attentat djihadiste contre la rédaction de l'hebdomadaire satirique qui a fait 12 morts, c'était le 7 janvier 2015.
À Mayotte, le passage dévastateur du cyclone Chido n'aura pas seulement révélé l'état de délabrement qui préexistait sur l'archipel.
La tempête aura aussi brutalement ravivé les tensions déjà très marquées autour de l'immigration. De très nombreux étrangers en situation irrégulière, venus pour la plupart des Comores voisines, vivent ou plutôt survivent aujourd'hui dans le département. Ils représenteraient près d'un tiers de la population de l'île. Et c'est vrai que la catastrophe et le besoin de solidarité n'aura pas franchement permis d'apaiser le ressentiment des Mahorais de plus en plus vindicative vis-à-vis de cette population immigrée. C'est donc dans ce contexte très particulier que la chef de file des députés d'extrême droite, Marine Le Pen, est arrivée hier sur l'archipel avec l'ambition d'y rencontrer élus et habitants, tout en considérant que le gouvernement ne va pas assez loin sur la question migratoire. Nos envoyés spéciaux Pierrick Bonneau et Gilles Gallinaro l'ont suivi dans le nord de l'île, là où l'on vote massivement RN depuis déjà plusieurs élections. Reportage.
La principale opposante à Emmanuel Macron s'arrête à Andréma.
Bienvenue dans notre humble commune.
Village où certains poteaux électriques sont encore couchés. Marine Le Pen est accueillie sur un terrain de sport en ruine par le maire de la commune, un ancien socialiste, Arsani Tombou.
On est oublié. Ça, c'est le sentiment que nous avons ici. On est vraiment oublié dans le Nord. C'est un peu la débrouille.
Marine Le Pen écoute, puis critique l'action du gouvernement.
Il y a eu une concentration d'efforts qui ont été faits sur un certain nombre d'endroits très précaires comme les bidonvilles, etc. Voilà. Mais la réalité, c'est que les Mahorais qui n'ont pas de toit, bah, ils sont un peu dans la même situation. C'est-à-dire qu'ils sont sous la pluie, tout est perdu.
Dans les rues encombrées du village, une habitante voilée craque devant la députée.
Moi, personnellement, je ne vote pas pour Madame Le Pen. Mais je trouve quand même que c'est scandaleux qu'il ait fallu qu'elle vienne ici. On peut dire ce qu'on peut dire. C'est de la politique. Elle veut récupérer. Mais c'est la première fois qu'on voit des médias venir ici.
La colère des Français qui se sentent abandonnés par l'État, en métropole comme à Mayotte, c'est le carburant du Rassemblement national.
Un reportage à Mayotte signé Pierrick Bonneau.
En tracteur ou en voiture, des agriculteurs tentent de gagner Paris.
À la veille du coup d'envoi de la campagne électorale pour les chambres d'agriculture, les bonnets jaunes de la coordination agricole, le deuxième syndicat de la profession, veulent faire entendre leur voix contre les accords de libre-échange, mais aussi contre la concurrence déloyale et contre les contrôles dans les fermes. La plupart d'entre eux ont toutefois été retenus ou ralentis par les forces de l'ordre, et ce alors que la ministre de l'Agriculture a prévenu que la capitale ne devait pas être bloquée un jour de rentrée scolaire. Et justement, ce jour de retour à l'école, la nouvelle ministre de l'Éducation, Elisabeth Borne, avait choisi de se déplacer ce matin à Longjumeau, dans l'Essonne, à la rencontre du personnel d'un établissement, l'occasion de rappeler notamment sa bataille pour éviter les suppressions de postes, 4000 au total, qui étaient prévues dans le budget 2025, avant la censure du gouvernement Barnier. Reportage donc parmi les élèves de CM1 et CM2 de l'école élémentaire Hélène Boucher avec Hakim Kasmi et Lucien Lefebvre.
Plutôt discrète en cours de français, Elisabeth Borne, qui est également polytechnicienne, semble plus à l'aise en cours de mathématiques avec les élèves qu'elle n'hésite pas à aider.
Peut-être on peut essayer de faire des paquets de 4.
L'esprit matheux, la ministre de l'Éducation en aura bien besoin pour constituer son budget qui prévoit pour l'instant la suppression de 4000 postes d'enseignants.
Naturellement, on va préparer la discussion qui doit reprendre à l'Assemblée nationale et au Sénat sur le budget. avec pour moi de l'ambition pour le ministère qui est le mien et avoir le meilleur budget pour être à la hauteur des ambitions que je peux avoir pour ce grand ministère.
Quant au cours d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, la ministre indique qu'elle compte bien le mettre en place dès la rentrée de septembre.
Moi, j'avais tenu en tant que première ministre à ce que le Conseil supérieur des programmes s'empare de ce sujet. Il a rendu des propositions au début de l'année 2024. Donc le texte qui pourra être présenté à un prochain Conseil supérieur de l'éducation pour qu'on puisse former les professeurs et que cette éducation puisse se mettre en place à partir de la prochaine rentrée. On vise un Conseil supérieur de l'éducation d'ici la fin du mois de janvier.
Enfin, sur les groupes de besoins, Elisabeth Borne n'a pas encore tranché. Elle prendra sa décision à l'issue d'une évaluation qui sera réalisée au mois de mars.
Un reportage d'Hakim Kasmi. Alors, on évoquait à l'instant les incertitudes qui continuent de planer sur le prochain budget. Il se trouve que depuis ce matin, le ministre de l'Économie reçoit les différents partis représentés à l'Assemblée pour discuter de son élaboration. Éric Lombard y espérait de possibles convergences avec la gauche, tout en écartant les lignes rouges de l'extrême droite. Camille Manière, bonjour.
Bonjour Thomas.
L'exercice s'annonce évidemment délicat, toujours sur fond de forte dégradation des finances publiques. Qu'est-ce que Éric Lombard pourrait faire de différent de son prédécesseur, Camille, pour éviter cette fois-ci le couperet de la censure?
Eh bien, principalement, vous l'avez évoqué, il choisit ses interlocuteurs privilégiés, le nouveau ministre qui dit s'attendre à une discussion plus féconde avec la gauche insoumise à part qu'avec l'extrême droite. Pour ménager des marges de discussion, il évoque un projet de budget plus souple que celui de ses prédécesseurs, un objectif affiché de 50 milliards d'euros d'efforts budgétaires contre 60 milliards dans la version Barnier, principalement des coupes dans les budgets publics tout de même et pas de nouvelles hausses d'impôts par rapport à celles déjà annoncées, assurait Éric Lombard ce matin sur France Inter.
Moi, je suis pour la justice fiscale. Il s'agit de vérifier que chacun paye sa juste part de l'impôt. Ça, c'est un point, par exemple, sur lequel nous pouvons trouver des convergences.
Donc, taxer davantage les très très riches qui optimisent l'impôt.
Pas les taxer davantage, veiller à ce que le niveau d'impôt qu'ils payent soit homogène à celui que payent les autres Français.
Voilà, Éric Lombard qui maintient aussi le principe de la taxation des profits des grandes entreprises, chiffré à 8 milliards par le précédent gouvernement. Le ministre annonce que le taux d'intérêt du livret A va baisser pour suivre l'inflation autour de 2,5%. Ça va sans doute être annoncé en janvier. Et puis, pour le cap général de ce projet de budget en 2025, l'objectif de déficit public visé, il est question de souplesse, là où le gouvernement Barnier tenait mordicus à un retour de 6,1 à 5% du PIB dès cette année.
Je pense que c'est trop. Parce qu'il faut aussi soutenir l'économie. Moi, je pense à nos entreprises. Il faut protéger la croissance. C'est les entreprises qui créent la richesse, qui créent l'emploi. Et donc, on vise un déficit qui se situerait entre 5 et 5,5%. Avec un petit peu plus de souplesse que ce que le gouvernement de Michel Barnier avait prévu.
La souplesse comme maître mot pour ce ministre qui reconnaît qu'il est sur un siège éjectable, qui cherche clairement son totem d'immunité à gauche, sans pour autant proposer de mesures qui fassent vraiment pencher la balance.
Merci Camille Manière. 4 ans, jour pour jour, après l'assaut du Capitole par des centaines de partisans de Donald Trump pour contester l'élection de Joe Biden à la présidentielle. C'est aujourd'hui que le Congrès américain doit certifier la victoire du républicain et ainsi consacrer son retour triomphant à la Maison-Blanche. Alors cette certification représente traditionnellement une formalité. Seule ombre potentielle au tableau pour le futur président, les services météo ont lancé une alerte à la tempête hivernale sur la capitale Washington. Et puis, ironie protocolaire, c'est Kamala Harris, la rivale vaincue de Donald Trump qui officiera aujourd'hui en sa capacité de vice-présidente.
Et c'est précisément à l'approche de l'investiture de Donald Trump que l'Ukraine cherche à apparaître en meilleure posture en vue d'éventuelles négociations avec Moscou.
Kiev qui semble vouloir reprendre l'initiative sur le champ de bataille. C'est ainsi qu'hier la Russie a confirmé avoir repoussé une offensive ukrainienne surprise dans la région frontalière de Koursk, là où les forces de Kiev contrôlent déjà plusieurs centaines de kilomètres carrés depuis un premier assaut inattendu l'été dernier. Reste à savoir si cette attaque est de nature à affaiblir les troupes de l'envahisseur sur la ligne de front côté ukrainien. Les précisions depuis Moscou de Sylvain Tronchet.
Comme depuis le début de l'offensive ukrainienne sur le territoire russe début août, il est compliqué d'avoir une vision précise des opérations militaires dans la région de Koursk, mais il semble certain que l'armée ukrainienne a relancé une offensive après avoir plutôt reculé ces dernières semaines. L'armée russe et Kiev confirment que des combats ont lieu actuellement, et d'après les correspondants militaires russes, les forces ukrainiennes attaquent dans 3 ou 4 directions simultanées, avec des petits groupes appuyés par des blindés et des mesures de guerre électronique pour tenter de neutraliser les drones russes. Des images, difficiles à authentifier, diffusées par des comptes Telegram russes, montrent néanmoins des destructions de blindés ukrainiens. Ces dernières 24 heures, les forces de Kiev semblent avoir progressé de 2 à 3 kilomètres. Elles contrôlent une zone d'environ 500 km² en territoire russe. Mais pendant ce temps, l'armée russe continue de progresser dans le Donbass et annonce ce matin la prise de la ville de Kourakové, affirmant que ce point d'appui lui permettra de parvenir au contrôle entier de la région de Donetsk.
On termine avec un mot du temps pour cet après-midi, marqué par un front pluvieux soutenu qui s'étirera des Pyrénées au Massif central jusqu'au nord et à l'est du pays, également accompagné de puissantes rafales. 17 départements d'ailleurs ont été placés en vigilance orange. Quant aux températures, elles seront comprises entre 8 et 14 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.